Radio Indundi Culture, le journal.
Claire Kahundiye.
Radio Indundi Culture, bonsoir et bienvenue dans cette édition de la soirée de ce mardi, dont voici les grandes lignes. L'association de lutte contre le chômage et la torture s'inscrit en faux contre l'agression d'un journaliste de la radio Bonesha FM et demande que les auteurs soient traduits devant la justice. C'est au moment où l'organe régulateur, le Conseil national de la communication, indique ne pas avoir été saisi. Le ministère en charge de la Défense indique faire face à des défis liés au retard dans la passation des marchés et au décaissement des fonds, malgré qu'elle estime à 97% les réalisations de ce ministère pour le troisième trimestre dans l'exercice budgétaire 2024-2025. Des habitants de la zone Gatumba plaident pour la disponibilité de l'eau potable, craignant d'attraper des maladies des mains sales aussi longtemps qu'il y manque de l'eau propre. Dans la chronique santé que la rédaction de la radio Indundi Culture vous présente chaque mardi, aujourd'hui nous allons revenir sur la mycose des pieds, une maladie dans les modes de contamination ainsi que le comportement à adopter selon un dermatologue. Ils vont y être donc revenus pour se protéger contre cette maladie. Voilà pour les titres. Kofi Olivier et Rubelino Ali assurent la mise en onde.
Radio Indundi Culture.
Encore une fois, bienvenue, je vous le disais dans les titres. L'association de lutte contre le chômage et la torture dénonce l'agression qu'a subie ce lundi un confrère de la radio Bonesha FM de la part des étudiants de l'université du Burundi, des faits qui se sont produits au campus Mutanga. Le coordinateur de cette ONG locale, Alushoto, estime que ce comportement jugé de barbare est de nature à porter atteinte aux droits de l'homme en général, mais aussi atteinte à la liberté de la presse au Burundi. Vianney Ndayisaba demande que la responsabilité soit établie dans l'immédiat et que les auteurs soient traduits devant la justice afin de bannir de pareils actes en cette période préélectorale. Je vous propose d'écouter le coordinateur national de la Alushoto, Vianney Ndayisaba, traduit en français par Dieudonné Nyanzigamiye.
L'Alushoto s'inscrit en faux contre cette violation des droits de l'homme faite envers une personne, le journaliste Willy Kwizera de la radio Bonesha FM. C'est une mauvaise signe précurseur et qui est une réelle violation des droits humains. L'Alushoto regrette le comportement affiché par ses étudiants de l'Université du Burundi, déjà que nous considérons comme les futurs intellectuels burundais et qui a enfermé dans leur bureau un journaliste dans l'exercice de son métier, et l'on a ramené le roi et à Louis Feza signé par force des documents. Nous sommes désolés de ce qui s'est produit ce lundi car nous considérons les étudiants de l'université comme des modèles, des futurs cadres et leaders du pays. C'est triste de constater que nous avons des jeunes qui m'arménaient d'autres gens. Nous nous interrogeons alors si jamais ils sont nommés comme des cadres, comment vont-ils diriger des sensibilisations des maires nécessaire. Nous déplorons cette violation des droits de l'homme et nous demandons aux autorités du pays de le protéger et que le document qui a été forcé de signer soit considéré comme nul, que les auteurs soient arrêtés et traduits devant la justice, qu'un jugement juste et approprié les soit rendu. Ce qu'ils ont fait ternit l'image du Burundi à ce qui est des droits de l'homme, d'autant plus que nous allons bientôt célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse et en plus nous sommes dans la période préélectorale. Tout cela risque de montrer à tort que la liberté de la presse est bafouée. Nous demandons qu'il soit traduit devant la justice, que Marmené le journaliste cesse.
Quoique le directeur de la radio Bonesha ait aussi plaidé pour des enquêtes et pour la poursuite des auteurs, le Conseil national de la communication, organe régulateur des médias, a indiqué n'avoir jamais été saisi pour ce cas jusqu'à ce mardi. Seulement, la présidente du Conseil a confié à la presse que l'indépendance de l'exercice du métier est toujours garantie à travers toute l'étendue du territoire national. Ambassadeur Espérance Ndayizeye en a profité pour assurer que la sécurité des journalistes reste assurée en cette période qui chemine vers les élections, rappelant aux détenteurs de l'information de faciliter l'exercice du métier d'informer. Suivez.
Le Conseil national de la communication n'a pas été saisi pour ce cas de ce journaliste de la radio Bonesha FM. Le CNC a appris par les réseaux sociaux qu'il y a un journaliste de la radio Bonesha FM qui a été en difficulté à l'université du Burundi. Il n'y a pas d'assaut contre la presse. Il faut que les choses s'appellent comme elles sont. S'il y a des situations qui arrivent, ce ne sont pas des situations qui arrivent souvent, mais s'il y a une situation, un problème d'un journaliste qui est sur terrain, que le CNC soit saisi et que nous puissions enquêter sur la situation, que nous puissions intervenir à temps. Sinon, nous sommes convaincus que la liberté de la presse au Burundi est garantie et nous sommes convaincus que, et si nous essayons de comparer notre pays à d'autres pays, nous nous classons les premiers. Nous savons que la liberté de la presse est garantie au Burundi. En démontre le nombre de médias qui naissent par jour. Les échéances électorales, c'est un passage dans la démocratie, donc un passage normal. Que ce soit dans la période électorale ou en période normale, le journaliste doit avoir accès à l'information. Que ce soit en période électorale ou en période normale, le journaliste doit toujours faire preuve de professionnalisme et de prudence. Si le journaliste a sa carte de presse et qu'il fasse preuve de prudence et de professionnalisme, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de problème dans la collecte de l'information. La carte de presse est une carte d'identité pour un journaliste, mais ce n'est pas la condition sine qua non pour que le journaliste puisse avoir accès à l'information. Il faut que le journaliste aussi, à côté de la carte de presse, puisse adopter un comportement qui crée confiance avec ses interlocuteurs, un comportement qui ne porte pas préjudice à son action de recherche de l'information.
Des habitants victimes des inondations de la zone Gatumba craignent d'attraper des maladies des mains sales suite au manque d'eau propre. Ces habitants signifient qu'ils se rabattent sur les eaux de pluie et doivent payer par bidon ceux qui apportent par vélo de l'eau potable. Ils plaident pour l'accès à l'eau potable de la Régie des eaux. L'administration reconnaît cette situation et montre qu'elle s'est déjà entretenue avec le directeur général de la Régie des eaux là-dessus. Alice Daïdzeye, les détails.
Ces habitants de la zone Gatumba, victimes des inondations, montrent qu'ils font face au manque d'eau potable. Ils ajoutent que même s'ils en ont, elles ne sont pas propres.
Ici, il nous est difficile d'avoir de l'eau à boire. Alors que nous sommes inondés, ça devient un problème.
Je crois que les tuyaux contiennent des microbes. Les eaux ne sont pas propres.
Les eaux ne sont pas propres.
Pour pouvoir accéder à l'eau potable, cette population se voit obligée à payer des taxis vélos. Et s'il pleut, elle se rabat sur les eaux de pluie. Certains confirment qu'ils se servent des eaux de pluie pour étancher leur soif.
Si on a l'argent, on doit en acheter et les unes de Kajaka par bidon. C'est par cette voie que nous y accédons.
Pour avoir de l'eau à boire, c'est difficile. Moi, je bois les eaux de la pluie.
Ils craignent alors d'attraper des maladies de mains sales.
Nous risquons d'attraper des maladies comme le choléra suite aux pénuries d'eau.
Et plaide pour la neutralisation des microbes contenant dans le peu d'eau disponible, ainsi que la disponibilisation de l'eau potable en quantité suffisante. Jean Muyoboke, chef de zone Gatumba, confirme ces informations et mentionne que la situation est déjà connue au niveau de la Direction générale de la Régie des eaux.
Ici à Gatumba, nous avons un problème d'eau potable. Beaucoup de gens utilisent l'eau en provenance de Kajaga. Nous nous sommes déjà entretenus avec le DG de la Régie des eaux. Il nous a répondu qu'ils viendront faire constat en V.
Selon les informations recueillies sur place, la population n'accède à l'eau potable de la Régie des eaux que trois fois la semaine et cela la nuit. Ceux qui payent, ceux qui la portent à vélo payent 1000 francs par bidon de 20 litres.
Radio Indondi Culture.
Radio Indondi Culture, poursuivant ce journal. Les causes de décès des lapins au Burundi sont dues aux maladies liées à la consanguinité, selon le directeur de la santé animale au sein du ministère en charge de l'élevage. Désiré Nakilutimana déplore que des cuniculteurs ne tirent pas attention aux lapins de même sexe qui sont mis ensemble dans un clapier et qui s'accouplent. Il indique qu'une alimentation inadéquate ou encore des clapiers mal construits peuvent être à l'origine de la mort de ces animaux. Il appelle ces cuniculteurs à la vigilance pour éviter la survenue de quelconque problème, d'autant plus que l'élevage de lapins est promu par le gouvernement. Odilon Yidjimana pour plus de précisions.
L'élevage de lapins est parmi ceux qui sont promis par le gouvernement burundais. Même si certains Burundais ont commencé la cuniculture, ils n'ont pas encore toutes les connaissances y afférentes, notamment ce qui est de la production, ce qui a comme conséquence la mort de ces lapins, affirme Désiré Nakirutimana, un médecin vétérinaire et directeur de la santé animale au sein du ministère en charge de l'élevage.
Les causes de mortalité chez les lapins a plusieurs dimensions. Vous savez, le problème d'élevage, notamment la consanguinité, est un problème très sérieux. Tu vas trouver quelqu'un qui élève 10 lapins, il a le même mal pendant plusieurs jours. Ces maladies dites génétiques sont très fréquentes. Mais quand on fait un mauvais élevage et qu'on combine les animaux de même sang, ces problèmes vont se révéler et vous allez constater qu'il y aura des maladies et des mortalités.
Une autre cause de décès de ces animaux, c'est l'alimentation inadéquate. C'est le toujours son médecin vétérinaire.
En rapport avec l'alimentation, les aliments mouillés avec des moisissures qui sont administrés aux lapins sont parfois à la cause de mortalité.
Même si le lapin peut être élevé dans tous les coins du pays, Désiré Nakirutimana revient sur le clapier, habitat du lapin, qui s'il n'est pas bien aménagé peut conduire au décès de l'animal.
Les conditions climatiques qui n'ont pas été prises en compte au moment de la conception des clapiers sont le plus souvent à l'origine des cas de mortalité. Par exemple, quelqu'un construit, il ne prépare correctement la mise bas de ses lapines et constate que la mortalité des jeunes qui viennent de naître s'en suit.
Ce spécialiste en santé animale appelle les éleveurs de lapins de faire un suivi journalier des lapins, de veiller à l'hygiène de son habitat et de prendre garde à ce que des lapins de la même portée ne se reproduisent ensemble.
Il faut que les gens comprennent que la consanguinité est un grand problème. Il faut qu'ils changent souvent de mâle et qu'ils évitent qu'un mâle aille s'accoupler avec une autre femelle qui soit de même catégorie, je dirais, génétique ou consanguin.
Le Burundi a un vaste projet d'augmenter la production des lapins. À titre illustratif, dans le budget de l'État, exercice 2023-2024, le gouvernement a prévu un montant d'environ 3 milliards de francs pour la construction d'un centre naisseur et de multiplication des lapins.
Le Centre national de développement de l'aquaculture envisage d'augmenter les industries de nutrition des espèces aquatiques pour atteindre la vision de développement du pays. Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Après que certains aquaculteurs aient déploré la revue à la hausse du prix de ces aliments, le responsable du centre, Jean-Marie Manilambona, demande le strict respect des prix récemment annoncés par le gouvernement burundais pour améliorer la production aquacole. Olivier Kwizera nous en dit plus.
Nta gitungwa na kimwe kimbuka kitagaburiwe. Nka kujya ku mwana utamugaburiye.
Il s'agit d'un responsable du Centre national de développement de l'aquaculture qui dit que les poissons en aquarium ont besoin d'aliments. Jean-Marie Manirambona parle des céréales qui sont efficaces pour l'aquaculture.
Les poissons ont besoin d'aliments comme les céréales, des maïs, du soja, d'arachide et le sang bovin. Nous devons faire nourrir les poissons trois fois par jour. Par exemple, le matin, vers le lever du soleil, midi et après vers le soir. La quantité est à 0,5 à 2% de leur poids selon les espèces.
Manirambona précise que la fabrication de nutrition nécessite de la bonne préparation. Il dit que la croissance, la santé et le développement durable des espèces aquatiques dépendent grandement d'une alimentation de haute qualité.
Ça demande une bonne préparation des céréales. On doit les transformer de façon qu'on obtient de la farine. Le soja doit être cuit sans eau pour éviter du poison.
Concernant la revue à la hausse du prix de nutrition de poissons qui se fait parler ici et là, Jean-Marie Manirambona signifie que c'est une question préoccupante. Son responsable considère que les prix récemment fixés par le gouvernement devraient être respectés pour le bien-être de la nation.
Le projet d'aquaculture connaît 60% pour la nutrition. Le manque d'aliments contribue à la faible production. Pour la revue à la hausse du prix, il faut qu'il y ait le respect des prix fixés par le gouvernement.
Dans la vision 2040 pays émergents et 2060 pays développés, le Centre national de développement de l'aquaculture envisage de multiplier des industries d'aliments pour le bien-être de l'aquaculture. Et cette institution fait savoir que le Burundi connaît aujourd'hui 92 associations qui se sont investies dans l'aquaculture.
Le ministère en charge de la Défense nationale précise que les réalisations au cours du troisième trimestre de l'exercice budgétaire 2024-2025 sont à 97%. Le ministre l'a indiqué au cours d'une conférence de presse animée ce mardi. Alain Tribert-Moutabadzi note pourtant des défis liés au retard de la passation des marchés et au décaissement des fonds. Cette autorité souligne néanmoins que son ministère continuera à contribuer aux activités de maintien de la paix dans le cadre régional de l'Union africaine et des Nations unies. On l'écoute.
Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se réjouit de ces réalisations qui sont estimées à 97% au cours du troisième trimestre de l'exercice budgétaire 2024-2025, malgré quelques défis rencontrés. Il s'agit notamment du retard observé chez certains fournisseurs et une lenteur dans le procédure d'octroi de marché et de décaissement de fonds publics. Dans nos perspectives d'avenir, nous allons tout faire pour mettre en œuvre les actions planifiées dans le plan d'action annuel 2024-2025 en nous conformant au PTBA. Nous continuons aussi à contribuer sans cesse aux activités de développement du pays, à l'encadrement de la jeunesse et aux activités de maintien de la paix hors de nos frontières dans le cadre régional de l'Union africaine et des Nations unies.
Radio Indondi Culture, Chronique Santé.
Dans la chronique santé que la rédaction de la radio Indondi Culture vous propose chaque mardi, aujourd'hui, nous revenons sur la mycose des pieds. Le dermatologue Jean Berkmans Nihebuayo nous parle des modes de contamination ainsi que le comportement à adopter pour se protéger contre cette maladie. Ce spécialiste interpelle la population à éviter l'automédication pour ne pas se faire exposer à des complications graves. La chronique santé est signée Jean de Dieu Nahimana.
Le dermatologue Jean Berkemas Nhebuayo a précisé que les mycoses peuvent être localisées et qu'elles prennent leur nom en fonction des parties du corps concernées.
Si on doit parler des autres mycoses localisées à d'autres endroits, mycoses au niveau axillaire, on parle d'un tel trigo axillaire ou un tel trigo sous-mammaire ou inguinale. Donc, ces mycoses prennent leur nom en fonction de la partie du corps dont ils se développent.
La transmission des mycoses se fait soit par contact direct, soit par contact indirect, comme le souligne le dermatologue Nhebuayo.
Les mycoses se transmettent comment? Par contact direct ou contact indirect. Par contact direct, quand une personne pieds nus, donc fréquente par exemple les piscines, les salles de sport, ou bien par l'usage des serviettes dans les hôtels, ou bien même à la maison, l'usage commun donc des serviettes, ça peut favoriser donc l'infection de mycose.
Les vêtements portés par une personne atteinte de mycose peuvent également favoriser la transmission.
Les habits peuvent favoriser la transmission de l'infection mycosique, mais par exemple, ce qu'on appelle l'ptyliasis versicolor qui affecte surtout la partie supérieure du tronc, voire du dos du tronc, pour ceux qui partagent les habits ou partagent le lit, les draps, peuvent s'infecter facilement. Et les enfants dans les crèches, même à l'école, donc, pour les teignes de cuir chevelu, donc ils s'infectent facilement, ils infectent les autres facilement, l'entourage.
Selon ce dermatologue, le bon comportement à adopter pour se protéger contre cette maladie est d'assurer une bonne hygiène corporelle lors du lavage. Il est essentiel de bien sécher les espaces entre les orteils à chaque fois.
Le bon comportement, c'est l'hygiène individuelle, donc l'hygiène du corps, l'hygiène des habits, l'hygiène de ce qu'on utilise comme les les serviettes, c'est le port de chaussures. Et pour l'hygiène personnelle, quand on lave les pieds, il faut bien sécher.
Si les mycoses ne sont pas soignées à temps, elles peuvent entraîner des complications, notamment une surinfection bactérienne. Ces complications peuvent aller jusqu'à la perte de certaines parties du corps. Le dermatologue recommande à la population de renoncer à l'automédication, rappelant que seul un médecin est à mesure de prescrire un traitement adapté en fonction de la molécule nécessaire. Dans le cas contraire, la personne s'expose à des complications graves.
C'est ainsi que se termine ce journal mis en onde par Kofi Olivier Benouali. Merci chers auditeurs de nous avoir prêté une oreille attentive. Gardez l'écoute.
Claire, il y a 40 dix.